Vous écoutez On lit pour vous.
La bienveillance avant tout. Un texte d'Olivia Lévy paru le 30 juillet 2023 dans La Presse. Ted Lasso. C'est le nom du coach de soccer de l'AFC Richmond, équipe fictive anglaise de Premier League de la populaire série du même nom. Ted Lasso. C'est aussi le triomphe de la bienveillance et du dépassement de soi. C'est un entraîneur qui ne se fâche pas, qui comprend ses joueurs et qui fait ressortir le meilleur d'eux-mêmes dans la douceur. Est-ce possible? Y a-t-il un effet Ted Lasso dans le sport, mais aussi dans la vie? Selon Patrice Bernier, ancien joueur de l'Impact de Montréal, Ted Lasso est un modèle inspirant. Je viens d'une époque où les coachs étaient plus autoritaires, une époque où il fallait montrer son mécontentement pour faire ressortir la motivation, explique-t-il. Je ne pense pas que beaucoup de coachs aient autant d'empathie que Ted Lasso, mais j'observe qu'il y a un changement de comportement. Le leadership moderne dans le sport, où le travail est axé sur l'empathie et la bienveillance, sur le fait de comprendre l'autre, et on le voit de plus en plus. Patrick Leduc, directeur culture soccer du CF Montréal, partage cet avis. Il voit de moins en moins de coachs de la vieille école, ce qui est une bonne nouvelle. Je suis un ancien joueur. J'ai coaché des jeunes et Ted Lasso apporte une autre perspective. Tu n'as pas besoin d'être un dur de dur pour faire ressortir le talent. C'est ça le message, dit-il. On a des jeunes sportifs plus anxieux et un Ted Lasso est capable de faire ressortir le meilleur dans la bienveillance et l'empathie, car les joueurs se sentent en confiance, selon Patrick Leduc. La crainte de certains coachs, c'est qu'en ayant de l'empathie, on n'est pas assez exigeant, mais dans le respect, on obtient des résultats et la série aide à changer les mentalités. Faire ressortir le meilleur. Pour le sociologue Michel Doré, professeur titulaire retraité de l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval, la façon dont Ted Lasso s'adresse à ses joueurs est presque, à ses yeux, un cours d'intervention sociale. Ted Lasso est un expert du recadrage. Son regard différent sur les situations de crise oblige à voir autrement les choses, ce qui est une technique très efficace de thérapeute, dit Michel Doré. Selon lui, il faut valoriser les comportements bienveillants et montrer que dans la vie, le travail et le sport, c'est gagnant. Il cite en contre-exemple l'entraîneur Jacques Mercier de la série Lancez Compte qui hurlait dans le vestiaire contre ses joueurs. Encore aujourd'hui, beaucoup de gens ont ce modèle en tête. Il faut s'en débarrasser et le remplacer. On progresse, mais il y a encore du travail à faire, observe l'auteur de « La masculinité antitoxique ». Selon le chroniqueur David Desjardins, cofondateur de l'agence La Flèche, plusieurs exemples viennent du monde du sport, mais aussi de celui des affaires. On est dans les extrêmes car il y a encore des modèles de managers qui pètent des coches à la Elon Musk, et de l'autre côté, il y a des chefs d'entreprise calmes et bienveillants. Je suis convaincu que d'être à l'écoute, de soutenir ses collègues et employés, c'est là que la motivation sera la meilleure. Les gens seront plus efficaces avec plus de loyauté, mais on ne change pas une culture du jour au lendemain. Les valeurs positives du sport. Le sociologue Michel Doré rappelle qu'il y a beaucoup de valeurs positives et humanistes dans le sport. La loyauté, le dépassement de soi, l'esprit d'équipe, le plaisir de jouer, mais on les oublie quand on est à la recherche de la victoire à tout prix. Il faut promouvoir et répéter sans cesse aux jeunes les valeurs de l'équipe, la solidarité, l'empathie, la compassion, explique-t-il. Je vais commencer à former les coachs de la LHJMQ, Ligue de hockey junior majeure du Québec, à la bienveillance et sur la façon d'éradiquer les comportements toxiques chez les joueurs. Et je vais très certainement leur parler de la série qui est très inspirante. C'est un grand virage à faire dans notre société, croit-il, en particulier dans le sport, car ce domaine constitue le reflet de ce que nous sommes. Le sociologue remarque qu'il est difficile de convaincre les gens en poste de consacrer de l'argent à des formations sur la bienveillance. C'est un bon investissement. Le joueur ne sera pas moins combatif sur le terrain ou sur la glace, au contraire. Il sera meilleur et les équipes plus soudées. Et quand les gars de l'équipe feront la première page des journaux, ce ne sera pas à cause d'actes inappropriés, mais parce qu'ils auront gagné. Quand on parle de saine compétition, la plus belle image qu'a Michel Doré en tête est celle de Roger Federer et Rafael Nadal, l'un contre l'autre, lors du dernier match de Federer. Deux grands amis qui étaient rivaux sur le terrain. Le vrai adversaire, ce n'est pas l'autre, c'est soi-même. C'est se dépasser soi-même et gagner. C'est ça, la nuance, souligne-t-il, en rappelant que la bienveillance porte ses fruits. J'ai été athlète, et je peux vous dire que tous les athlètes ont besoin d'affection, car nous sommes de grands émotifs, dit Patrice Bernier. Les jeunes générations perçoivent le leadership comme quelque chose de respectueux qui se passe dans l'échange et la compréhension, alors on va dans la bonne direction. Patrick Leduc croit que le phénomène Ted Lasso va s'installer dans le sport. Le bien-être des joueurs passe avant tout. Et être optimiste, ça encourage à se dépasser. La série Ted Lasso est disponible sur Apple TV+. C'était « La bienveillance avant tout », un texte d'Olivia Lévy paru le 30 juillet 2023 dans La Presse.
L'autre défi, un texte de Stéphanie Auclair, paru le 21 août 2023 dans La Presse. Il y a quelques mois, un collègue nous a lancé l'invitation de nous inscrire au demi-marathon du Petit Train du Nord. Au total, 24 personnes ont accepté le défi. Beau trip de gang à venir à la fin de septembre, donc. C'est ce que je pensais il y a quelques mois. Maintenant, à 6 semaines de l'événement, je réalise que mon défi sera beaucoup plus grand que de courir 21,1 km le 30 septembre. Mon défi, c'est d'apprendre à m'entraîner sainement d'ici là. Mon défi, c'est donc de ne pas avoir d'objectif de performance le 30 septembre. Au départ, je me suis inscrite pour savoir si je serais capable de courir cette distance. Depuis que j'ai relevé ce défi à l'entraînement, mon cerveau est passé en mode performance. Tant qu'à courir la distance, aussi bien le faire le plus rapidement possible, non? C'est là que mes démons sont revenus. Le besoin de performance, de défi, de limite à franchir. À partir du moment où j'ai parcouru la distance entière à l'entraînement, le côté plaisir de la course est disparu. Du jour au lendemain, je ne courais plus pour le plaisir de me dépasser, mais plutôt pour le désir de courir plus vite, plus loin. La semaine dernière, je devais parcourir 19 km à l'entraînement. J'ai réussi haut la main, mais j'ai détesté chaque minute, chaque kilomètre. Je me suis rendu compte à ce moment-là qu'après 15 km, je n'avais aucun plaisir à courir. Aucun. J'étais en mission, point final. J'ai donc remis en question ma participation au demi du mois de septembre. Je me voyais aller et je ne voulais pas retomber dans de mauvaises habitudes et pensées de surentraînement. Parce qu'on s'entend, je ne m'entraîne pas pour les Jeux olympiques. Que je fasse un temps respectable ou pas n'aura aucun impact sur qui que ce soit, sauf sur mon égo, peut-être. Pendant 48 heures, je me suis dit que je ne participerais pas à la course, question de santé mentale. Mais depuis quelques jours, ma pensée a évolué. Mon défi n'est plus de courir 21,1 km le 30 septembre prochain. Mon plus grand défi, c'est de réapprendre à courir pour le plaisir. Mon défi, c'est de ne plus penser en termes de pace et de distance. Mon défi, c'est de retrouver le plaisir de courir sans impressionner personne. Pour moi, c'est un défi monumental, mais je veux absolument le relever. Bring it on. C'était l'autre défi, un texte de Stéphanie Auclair, paru le 21 août 2023 dans La Presse.
pour en finir avec la pelouse parfaite. Un texte de Valérie Simard paru le 13 avril 2024 dans la presse. Plus que quelques semaines avant de voir des dizaines de petits boutons jaunes fleurir sur les gazons de la province. Bien que le défi pissenlit connaisse une croissance spectaculaire, en dehors du mois de mai, cette plante dite envahissante est encore considérée comme une ennemie. À tort, souligne le biologiste Claude Lavoie dans son récent essai « Pissenlit contre pelouse, une histoire d'amour, de haine et de tondeuse ». Au Québec, comme en Ontario ou aux États-Unis, la pelouse est un sujet clivant. La plupart l'aiment verdoyante, bien taillée et uniforme. Un idéal prôné par l'industrie de l'aménagement paysager depuis des décennies et encouragé par les municipalités qui en réglementent même la longueur. Claude Lavoie remet en question cette conception du gazon. Mais avant que vous n'interrompiez la lecture de cet article pour retourner à vos engrais, précisons que le biologiste, professeur titulaire à l'École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional de l'Université Laval, ne signe pas un réquisitoire contre la pelouse. Il explore plutôt de façon nuancée et fondée sur la science cette relation complexe que nous entretenons avec le pissenlit, particulièrement celui qu'on appelle le pissenlit officinal, une plante d'origine eurasiatique qui a été introduite en Amérique du Nord au XVIIe siècle. Pour moi, la pelouse, c'est un écosystème un peu insignifiant, mais je ne suis pas contre la pelouse en soi. J'en ai contre la pelouse parfaite, celle qu'on doit arroser, fertiliser, pesticider, tondre à tous azimuts, etc. Ça, ce n'est pas très bon pour l'environnement urbain et pour l'environnement en général, nous dit le biologiste Claude Lavoie. Après la rédaction de son ouvrage « 50 plantes envahissantes, protéger la nature et l'agriculture », paru en 2019, Claude Lavoie a vu grandir sa fascination pour le pissenlit. Sa biologie est intéressante, mais aussi le phénomène sociologique qui y est associé. Pourquoi haït-on cette plante-là qui est, somme toute, très inoffensive? Le pissenlit n'est pas une menace, ni pour l'agriculture, ni pour la santé. Le pollen de pissenlit ne voyage pas dans l'air, mais il est souvent confondu avec les semences duveteuses de la plante qui ne sont pas allergènes, explique-t-il. C'est une nuisance à une conception de la pelouse. Or, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la norme sociale était tout autre et tendait davantage du côté de la friche que du gazon parfait, jusqu'alors l'apanage des classes aisées. Si la norme a changé au sortir de la guerre, c'est que la croissance économique a amené les citadins à quitter la ville pour la banlieue et à s'installer dans des maisons modestes, mais dotées de grands terrains propices à la pelouse, raconte Claude Lavoie. L'industrie a beaucoup contribué à ça. L'idée du gazon parfait. Elle a tout avantage à faire du pissenlit un ennemi parce qu'on est capable de s'en débarrasser, mais il va toujours revenir. C'est très bon pour la vente de leurs produits, rappelle Claude Lavoie. Si l'approche de certaines entreprises tente à évoluer, celles-ci se heurtent au désir de leurs clients encore attachés à leur gazon vert, sauf en mai, depuis quelques années. Sauver les abeilles, vraiment? Le lancement du défi Pissenlit en 2021, inspiré du mouvement No More May aux États-Unis, a achevé d'alimenter la fascination du biologiste pour cette plante mal aimée. Rappelons qu'à l'initiative du couple d'apiculteurs de miel et compagnie, les Québécois sont invités, pendant tout le mois de mai, à ne pas tondre leur gazon, de façon à fournir nectar et pollen aux insectes pollinisateurs et, plus largement, à sensibiliser le public à leur apport essentiel. C'est très particulier parce qu'en l'espace de 2 ou 3 ans, le pissenlit, cette plante honnie des banlieusards, s'est transformé en héros environnemental des temps modernes qui allait sauver les abeilles, s'étonne Claude Lavoie. Qu'en est-il réellement? il n'existe aucune preuve scientifique de l'impact du défi pissenlit ou de No Mow May sur les pollinisateurs. Une étude réalisée dans la municipalité d'Appleton, au Wisconsin, en 2020, tendait à démontrer une plus grande abondance d'abeilles sur les terrains non tondus, mais l'étude a été rétractée en 2022 par la publication PeerJ, après avoir constaté plusieurs incohérences potentielles dans le traitement et la communication des données. Il y a quand même d'autres travaux qui montrent que le pissenlit est vraiment utile, mais surtout comme source de nectar, pas comme source de pollen, nuance Claude Lavoie. Le premier, sucré, est la source d'énergie des abeilles domestiques, alors que le pollen est leur source principale de protéines. Or, le pollen du pissenlit officinal, le plus commun au Québec, n'est pas assez riche pour répondre aux besoins des abeilles domestiques. Il y a plusieurs études qui commencent à montrer qu'au tout début de la floraison du pissenlit, les abeilles y vont, parce que des fleurs de parterre, il n'y en a pas tant que ça à ce moment de l'année. Et dès qu'elles disposent d'autres sources, particulièrement avec les arbres comme le cerisier et le pommier, elles se retranchent plutôt vers ces sources de pollen, dit Claude Lavoie. Il ajoute que le pissenlit ne profite pas qu'aux abeilles domestiques, mais aussi à d'autres pollinisateurs indigènes comme les abeilles sauvages et les bourdons. Alors, à votre question, est-ce que ça sert à quelque chose? Les opinions divergent. Ça ne sauve pas les abeilles, ça, c'est clair. C'est un premier pas vers un environnement urbain plus sain, et parmi ceux qui laissent pousser les pissenlits en mai, il y en a qui vont faire des pas supplémentaires. Il faut prendre les gens là où ils sont. La réalité des changements climatiques viendra-t-elle à bout de la pelouse parfaite? Le Québec est encore loin du Nevada où la pelouse non fonctionnelle a été interdite dans le sud de l'État, mais la multiplication des épisodes de sécheresse risque de mettre à mal nos gazons verts. « Il va falloir apprendre à vivre avec des pelouses beiges », prédit Claude Lavoie. « L'industrie a des cultivars moins gourmands en eau, mais ce n'est pas ce que les consommateurs achètent. La plupart du temps, ils achètent le gazon qui boit beaucoup pour rester vert. Comment aider les insectes pollinisateurs et favoriser la biodiversité des sols? Allonger les cycles de tonte, par exemple toutes les 3 semaines plutôt que chaque semaine. Cesser l'utilisation de fertilisants et de pesticides. Planter une variété de plantes et de fleurs indigènes comme le thym serpolet, la gastache, l'astère et l'asclépiade. Réensauvager une partie de son terrain en cessant complètement la tonte. En savoir plus. 155. Nombre de municipalités québécoises ayant appuyé le défi pissenlit en 2023. C'était « Pour en finir avec la pelouse parfaite », un texte de Valérie Simard paru le 13 avril 2024 dans La Presse.
Le cannabis est-il un traitement éprouvé? Un texte de Maxime Bilodeau paru le 31 août 2023 dans le magazine Virage. Depuis sa légalisation, de plus en plus de personnes aînées se tournent vers le pot pour soulager des problèmes de santé. Le cannabis est-il un traitement éprouvé? Bien que pour plusieurs l'essayer c'est l'adopter, des spécialistes nous mettent en garde. La prudence est de mise. Entretenir le jardin, corder du bois, passer l'aspirateur, jusqu'à récemment, ces tâches étaient rendues trop difficiles pour Nicole Trottier, 79 ans, dont la qualité de vie était plombée par d'intenses maux de dos. Les analgésiques qu'on me prescrivait ne me soulageaient pas, se souvient-elle. Et je ne vous parle pas des effets secondaires qui étaient nombreux et désagréables. Or, la résidente de Palmarol, en Abitibi, dit maintenant péter le feu. Qu'est-ce qui a causé ce revirement? La consommation de cannabis, affirme sans détour cette bénévole dévouée qui siège notamment au conseil municipal. Deux fois par jour, Elle ingère une gélule de cannabidiol, CBD, qui contient parfois un soupçon d'un autre cannabinoïde, le tétrahydrocannabinol, THC, pour en potentialiser les effets. Rien pour virer Stone, mais assez pour soulager ses maux. Deux semaines après avoir commencé le traitement, mes douleurs étaient de l'histoire ancienne. J'étais de nouveau capable de vaquer à mes occupations, raconte-t-elle. J'ai rajeuni de quelques années au moins. Consommation en hausse. Nicole Trottier fait partie d'un nombre croissant de personnes aînées qui consomment du cannabis. Selon l'enquête québécoise sur le cannabis 2022, 8,5% des adultes québécois âgés de 55 ans et plus rapportent avoir consommé de la marijuana dans les 12 derniers mois. Plus du double par rapport à 2018, 4%, l'année de la législation au Canada. De plus, plusieurs se tournent sciemment vers le pot pour traiter un problème de santé, ce qui les distingue des autres groupes d'âge. Malgré tout, la substance demeure honnie, conséquence de dizaines de décennies d'interdiction. « Je ne parle pas de ma consommation avec n'importe qui », témoigne Sylvie Nobert, 68 ans, d'Austin en Estrie, qui traite un trouble de stress post-traumatique avec du CBD. Certains médecins refusent encore d'en prescrire, imaginez. Science balbutiante. Le cannabis est-il un traitement éprouvé? Les professionnels de la santé prodiguent des soins à partir de données probantes. Or, en ce qui concerne l'utilisation thérapeutique du cannabis, ces dernières ne sont pas légion, lit-on dans un outil clinique préparé par le regroupement de pharmaciens experts en soins palliatifs de l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. Il s'agit d'une option de traitement possible pour certains patients ayant des problèmes réfractaires, conclut tout de même ce guide, publié en 2022. Marie-Josée Veilleux, pharmacienne au Centre hospitalier de l'Université Laval du CHU de Québec, Université Laval, est l'autrice principale de ce document. C'est la fréquence des questions à ce sujet de la part de patients qui l'ont incitée à scruter la littérature scientifique. Les patients pour qui le cannabis fait une différence importante sont minoritaires, affirme celle qui travaille surtout en gestion de la douleur chronique. Les histoires à succès sont anecdotiques. De tous les usages thérapeutiques possibles pour le cannabis, seule une poignée est appuyée par de la science robuste, comme la diminution des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ainsi que la réduction des spasmes liés à la sclérose en plaques. De plus, il y a encore un certain désaccord parmi le corps médical quant à ces indications, précise la spécialiste. L'efficacité, lorsqu'elle se vérifie, est indirecte. Diminution de la douleur chronique par amélioration du sommeil, par exemple. Il faut dire que les études cliniques randomisées, contrôlées à ce sujet, sont rares. Le cannabis étant difficile à évaluer avec cet étalon or de la recherche biomédicale. On parle après tout d'une plante, Cannabis sativa, qui contiendrait plus de 500 composés organiques. L'état des connaissances pourrait évoluer dans les prochaines années, souligne Marie-Josée Veilleux. Gare à l'automédication. Néanmoins, plusieurs estiment ne pas avoir le temps d'attendre que le cannabis fasse ses preuves, allant jusqu'à payer ce traitement de leur poche, faute de pouvoir s'en faire rembourser le coût par leur assureur ou la régie de l'assurance maladie du Québec, qui ne l'approuve et ne le couvre pas. C'est le cas de Sylvie Nobert, qui dépense presque 200 $ par mois pour se procurer du cannabis médical auprès de producteurs autorisés. Pour quelqu'un qui vit de ses rentes de retraite, c'est très dispendieux, déplore-t-elle. il existe d'autres sources d'approvisionnement. Un récent sondage pan-canadien, auquel ont participé près de 6 000 utilisateurs de cannabis médical, indique que plus de la moitié obtiennent leur cannabis sans autorisation, c'est-à-dire à la Société québécoise du cannabis ou son équivalent, du coin, voire de manière illicite. Cette automédication n'est pas sans risque, insiste Marc-André Hébert, président-directeur général de Solutions Cannabis Médical, qui accompagne des patients admissibles au cannabis médical. J'ai entendu des histoires d'horreur de gens qui se sont intoxiqués au cannabis, regrette-t-il. Ils ont fait une erreur de dosage ou l'ont pris en concomitance avec des médicaments comme des antiplaquettaires. Ils ne sauraient trop insister. Avant de se soulager avec du cannabis, il est impératif de solliciter les conseils de professionnels qualifiés. La légalisation change la donne. Un sondage réalisé en 2022 pour le compte de Santé Canada indique que 46 % des répondants qui ont consommé du cannabis à des fins médicales depuis octobre 2018 l'ont fait seulement après la légalisation à grande échelle. L'accessibilité simplifiée et la diminution de la stigmatisation figurent parmi leurs motivations. Près de 80 % des répondants ont déclaré que la consommation de cannabis avait des effets positifs. Une personne sur cinq a mentionné que son état s'était amélioré ou que le problème s'était complètement résorbé et qu'elle avait été en mesure de réduire la prise d'autres médicaments. Or, le tiers, 34 % des répondants, n'ont pas discuté de la consommation de cannabis à des fins médicales avec un médecin ou une infirmière praticienne, notamment par crainte d'être jugés. Le même projet de recherche indique que la moitié des professionnels de la santé sondés, 49 % ont déclaré que la consommation de cannabis comporte une valeur thérapeutique, tandis que la plupart des autres, 45 % ont indiqué qu'elle est utile au moins une partie du temps. Malgré cela, plus de la moitié, 53 % ont déjà recommandé à un patient de ne pas consommer de cannabis, entre autres en raison du manque de preuves de son efficacité ou de leur propre méconnaissance. C'était « Le cannabis est-il un traitement éprouvé ?» un texte de Maxime Bilodeau, paru le 31 août 2023 dans le magazine Virage.